Mais d'abord, on va se tourner vers Philippe Bonneville, journaliste Cogeco Nouvelles. Bonjour Philippe.
Salut Bernard.
Parce que tu as écouté le point de presse des autorités de Santé Canada, tu vas nous en parler dans un instant, mais aussi de Justin Trudeau qui avait une très bonne nouvelle.
Exactement, une bonne nouvelle, super nouvelle pour les Canadiens qui vient tout juste de tomber. Le premier ministre Justin Trudeau qui fait le point actuellement et qui vient d'annoncer que la compagnie Pfizer va accélérer, mais là, accélérer grandement la livraison de vaccins au Canada. Il y a 3,5 millions de doses du vaccin Pfizer qui devaient être livrées l'été prochain, qui vont finalement être livrés à partir du mois de mars. Ça, c'est 3,5 millions de doses supplémentaires, donc, pour le printemps. On parle d'1,5 million de doses juste pour le mois de mars. Là, au cours des prochaines semaines, c'est 1,5 million de doses supplémentaires par rapport à ce qui a été prévu au départ. 1 million de doses en avril, des doses supplémentaires, et un autre million de doses supplémentaires au mois de mai. Donc, 3,5 millions de doses supplémentaires, ce qui fait que, pour ceux là, qui doutaient qu'on puisse atteindre le 6 millions de doses livrées au Canada au total pour le mois de mars, eh bien, dites-vous qu'on va être rendu à la fin du mois de mars à 8 millions de doses.
Ah, là,
donc, ce sont des bonnes nouvelles quand même. Là.
La question, en fait, là, qui se pose, là, c'est la ligne officielle de Trudeau, c'est de dire on va tous être vaccinés d'ici la fin septembre. Avec des livraisons comme celle-là, moi, j'ai hâte de voir quel sera le nouveau calendrier, mais j'ai bien l'impression, Philippe, qu'on va avoir assez de vaccins pour que tout le monde, tous ceux et celles qui veulent être vaccinés, puissent l'être dès cet été. Là. C'est vers ça qu'on s'en va. Là. C'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle-là. Là.
Oui, parce que rappelle-toi, il y a quoi, un mois à peine, on accumulait les mauvaises nouvelles pour les livraisons de vaccins. On a même eu des semaines où il n'y en a pas eu de livraison de vaccins
ben
au
oui,
Canada.
Ben oui.
Là, ça accélère très, très, très rapidement. Là, on parle de millions de doses supplémentaires qui vont arriver plus rapidement que prévu.
Excellent. Puis l'autre bonne nouvelle de la journée, évidemment, Santé Canada qui a approuvé le vaccin contre la COVID, le vaccin de Johnson & Johnson.
Oui, c'est le quatrième vaccin à être homologué par le Canada, mais il y a quand même une particularité, ce vaccin-là. Hein. C'est le vaccin qu'on peut administrer en une seule dose. Et en plus de ça, pour le transport, pour également la conservation, ou en tout cas l'entreposage du vaccin, c'est beaucoup plus simple. On peut l'entreposer à des températures de 2 à 8 degrés Celsius, donc dans un frigo tout à fait normal. Ça sera beaucoup plus simple, donc, de pouvoir l'envoyer dans plein de régions au Québec et ailleurs au Canada.
Oui,
pour ce qui est de son efficacité, c'est, selon les essais cliniques, une efficacité de 66 %. C'est donc inférieur aux vaccins de Moderna et de Pfizer. Je te laisse entendre les précisions du Dr Marc Bertiom de Santé Canada qui était en point de presse ce matin.
Le taux d'efficacité ne signifie pas qu'après avoir reçu un vaccin dont le taux d'efficacité s'élève à 66 %, vous aurez 34 % de chances de contracter la COVID-19. Si vous recevez l'un des 5 vaccins, le risque que vous contractiez la maladie diminue considérablement. Même si les taux d'efficacité associés à chaque vaccin autorisé par Santé Canada diffèrent, vous serez tout de même beaucoup moins à risque de contracter la COVID-19, quel que soit le vaccin autorisé que vous recevrez. Ce qui est aussi très important à considérer, c'est le fait de savoir si ces vaccins peuvent vous empêcher d'être hospitalisé ou de mourir de la maladie. Nous savons que tous les vaccins vous protégeront. Parmi les 5 vaccins autorisés par Santé Canada, pas une seule personne ayant été vaccinée lors des différents essais cliniques n'est décédée de la COVID-19. Tous les vaccins permettent de réduire efficacement le nombre de cas graves et d'hospitalisations, ce qui constitue une véritable réussite.
Et là, il y a un cinquième vaccin qui pourrait être approuvé par Santé Canada.
Décision qui devrait venir, nous a-t-on dit, au cours des prochaines semaines. C'est celui de Novavax. Donc, on aurait 5 vaccins différents qui seraient approuvés. Pour ce qui est des statistiques, là, on peut dire que 3,6 % des Canadiens pour l'instant, ont reçu au moins une dose de vaccin. 1,4 % des citoyens ont reçu 2 doses jusqu'à maintenant. Évidemment, on est en retard au Canada par rapport à d'autres pays. Là, on est 43e dans ce taux-là de vaccination sur la planète. Mais ça risque de changer, ça risque d'accélérer assez rapidement avec les doses supplémentaires qu'on va recevoir au cours des prochaines semaines.
Philippe Bonneville, tu es porteur de bonnes nouvelles. Ça fait quelques fois que tu viens dans l'émission là, ces derniers jours. Et c'est toujours du positif.
Un peu d'espoir, ça fait du bien. On en a tellement parlé de choses négatives. Là, au moins, on a quelques nouvelles positives. Faut en parler aussi.
Tu reviens n'importe quand.
Absolument, je vais être là. Salut.
Salut, merci. Philippe Bonneville. Bon, alors, quel impact ça aura, tout ça? C'est ce nouveau vaccin? Bon. Et puis, il y a tous les variants, là, les sacrés variants là, qui nous menacent, qui nous pèsent au... ils sont comme suspendus au-dessus de notre tête ou sous l'eau tranquille comme des requins, dirait Horacio Arruda. Quoi qu'il en soit, j'ai parlé avec le docteur Gaston Deserre un peu plus tôt ce matin. Il est médecin épidémiologiste à l'INSPQ. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça va changer, le Johnson & Johnson, mais j'y ai parlé également des variants. Gaston Deserre, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Quatrième vaccin approuvé. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, là?
Bien, évidemment, tout dépend des arrivages de ce vaccin-là. Je pense que c'est un vaccin là, qui ressemble beaucoup à celui d'AstraZeneca. La différence, c'est que celui-ci se donne en une seule dose au lieu d'avoir besoin de deux doses. Mais son efficacité dans les études cliniques là, semble être à peu près du même ordre que celle qui a été notée avec le vaccin d'AstraZeneca. Donc, à peu près 65 % de protection contre la COVID, je dirais, régulière, mais quand même plus protecteur contre les gens qui ont des maladies graves là, qui requièrent de l'hospitalisation.
Est-ce que le vaccin de Johnson & Johnson est efficace pour toutes les catégories d'âge ou est-ce qu'il y a des questionnements comme on en a eu, par exemple, avec le AstraZeneca pour les personnes de 65 ans et plus?
En fait, je pense que ce qu'on a comme information avec le vaccin Johnson & Johnson, c'est basé sur les essais cliniques, l'essai clinique de phase 3, dans lesquels il y avait un petit nombre d'individus, appelons ça très âgés, donc de 75 ans et plus. Ce qu'on voyait dans ce petit nombre d'individus-là, c'était quand même que le vaccin était bien protecteur, mais la robustesse des résultats est évidemment questionnable quand il n'y en a pas beaucoup d'individus. Mais si on se fie à ce qu'on a vu avec le vaccin d'AstraZeneca, ça va donner quand même une bonne protection là, lorsqu'on devrait l'utiliser dans la grande population.
OK. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer le calendrier de vaccination?
C'est sûr que d'avoir un quatrième manufacturier qui peut fournir, bien évidemment, ça va nous aider à avoir plus de vaccins, qui est de loin l'étape qui est le goulot d'étranglement auquel on fait face actuellement.
Et plus facile à conserver aussi.
Oui, il est conservé donc avec les températures usuelles qu'on a pour les vaccins, donc au frigo de 2 à 8 degrés. Alors ça, évidemment, ça donne beaucoup de flexibilité pour pouvoir utiliser, déplacer ces doses de vaccins-là.
OK. Parlons des projections de l'INSPQ où vous travaillez, là. Bon, aujourd'hui, 798 nouveaux cas. Bon, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que les projections par rapport aux variants, sont franchement assez inquiétantes, là. On parle de 2000 à 4000 cas par jour au Québec si on n'est pas discipliné, si on ne fait pas attention. Expliquez-moi là, comment on pourrait passer de moins de 800 cas à 2000, sinon à 4000 cas par jour selon vos projections.
Bon, alors je pense que ce qu'il faut voir dans les travaux qui ont été faits par l'équipe qui a travaillé sur les projections, c'est que actuellement au Québec, là, dans la région, la grande région de Montréal, c'est là où on voit la plus grande proportion des cas qui sont des variants. Ce qui arrive avec ces variants-là, c'est qu'il semble que malgré les mesures qui sont en place, le nombre total de cas diminue, mais le nombre de cas chez les variants sera en augmentation. Malgré les mesures déjà en place.
Malgré la vaccination.
Ben, on ne parle pas de la vaccination tellement. La vaccination, encore une fois, elle touche une très petite frange de la population. Les personnes qui sont en CHSLD, en RPA, là, on commence les gens de 80 ans et plus ou même de 70 ans et plus, dépendant des endroits. Mais il reste que la grande majorité de la population, elle ne sera pas vaccinée là, avant plusieurs semaines, mois même. Donc, la maladie, elle peut circuler dans l'ensemble de la population. On n'a pas une bonne idée à quelle vitesse les variants actuellement augmentent. Et c'est ça qui est le problème, c'est que plus ils augmentent vite actuellement, plus, évidemment, la situation pourrait se détériorer si jamais il y avait un relâchement dans le comportement des gens.
Docteur Deserre, quand on regarde vos projections, là, et puis on voit qu'effectivement, il pourrait y avoir une remontée spectaculaire du nombre de cas causés par les variants, même une augmentation qui pourrait même dépasser ce qu'on a vécu après les fêtes. Il y a des gens qui vont dire, là, franchement, vous êtes un peu alarmiste. Le beau temps s'en vient, le vaccin s'en vient. Ça nous semble un peu, exagéré quand on regarde vos projections. Elles nous semblent un peu alarmistes.
Bon, je pense qu'il y a deux choses qui doivent être tenues en compte. La première chose, c'est l'expérience qui a été vécue, qui est encore vécue dans plusieurs endroits en Europe où ces variants-là sont en expansion malgré des mesures de précaution qui étaient, je dirais, un peu semblables à celles qu'on a ici au Québec. Donc, on a plusieurs endroits là, qui nous disent ces variants-là, compte tenu de leur contagiosité, ils deviennent rapidement là, les prédominants dans les endroits où ils se sont installés et ils vont faire que le nombre de cas va vraiment exploser. Donc ça, c'est l'expérience terrain en Europe là, qui est observée. Maintenant, comme je vous le disais, là, le problème de ces modèles-là, c'est pas le problème, mais une des caractéristiques de ces modèles-là, c'est qu'ils assument que au début, on dit très bien, les gens vont se comporter de telle façon, et là, on laisse aller le modèle pour voir comment ça va se dérouler là, sur 2, 4, 6, 8 semaines. Et là, évidemment, comme c'est multiplicatif, ben, ça, à un moment donné, ça se met à augmenter très rapidement. Dans la réalité, c'est évident que le gouvernement va probablement pas laisser la situation se détériorer à un point aussi grave que ça si jamais le nombre de cas se mettait à augmenter de façon très, très rapide, là.
Donc, les projections de 2000 à 4000 nouveaux cas par jour, c'est basé sur un scénario où on relâche, où on se laisse aller, où on respecte pratiquement plus les consignes, c'est ça?
Ah non, quand même, c'est même pas on respecte pratiquement plus, hein. C'est que dans le scénario qu'on appelle à adhésion forte, là, les gens respectent à 100% le fait de ne pas aller visiter les gens dans leur famille, de minimiser les contacts lorsqu'ils vont faire des loisirs, faire des courses dans les magasins ou autres. Alors que l'autre, c'est, on dit, ça baisse à 50%. Donc, les gens, au lieu de limiter complètement leur contact avec d'autres personnes dans les domiciles, il y a une certaine proportion, mais c'est pas comme si on était revenu à rien du tout. Là, au contraire, malgré qu'on ait encore une certaine restriction que les gens appliquent là sur le nombre de contacts, c'est, encore une fois, avec un virus si contagieux, une reprise de la transmission qui est assez spectaculaire.
OK, mais le chiffre de 2000 nouveaux cas par jour, c'est-tu basé sur une adhésion stricte? On continue à être très discipliné?
Non, c'était avec l'adhésion, là, je dirais, modérée, là, donc moins grande. On voyait là que ça montait. Bon, évidemment, ça dépend toujours. Là, la modélisation se rend jusqu'au mois de mai, et c'est là où on arrive à des chiffres là, qui montent jusqu'à proche 4000 cas par jour. Mais encore une fois, ça, c'est une façon de montrer comment l'épidémie va évoluer si on relâche et si tout continue là, sans faire aucun changement. Mais dans la réalité, c'est évident que si on se ramasse à 1500 cas par jour alors qu'on est rendu à 750 ou à peu près, là, il va y avoir des actions qui vont être posées par le gouvernement pour dire ben là, on peut pas continuer là-dessus. On va pas attendre d'être rendu à des chiffres aussi dramatiques avant d'essayer de corriger le
pire. Avant de réagir. Dr Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci beaucoup.
Merci à vous, M. Drainville. Bonne journée.
Alors, après la pause, on va parler du cancer colorectal qui est en progression chez les plus jeunes. On va parler avec un gastro-entérologue et avec l'association, avec le président de l'Association des médecins oncologues du Québec. Bougez pas.